c'est Son Goku et vous écoutez le Geek C'est Chic.
Bonsoir et bienvenue dans le Geek C'est Chic, l'émission de pop culture sur D4B. Vous nous écoutez sur 90.4 FM dans le Pays Mélois ainsi que sur 101.1 dans le Niortais. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en direct sur internet sur le site de D4B et retrouver les émissions précédentes sur le Mixcloud et sur notre Facebook.
Bonsoir les amis et bienvenue dans la cinquième émission du Geek C'est Chic. Émission un peu spéciale, hommage à Akira Toriyama, décédé le 1er mars.
Le public francophone que nous sommes, la nouvelle est arrivée, comme dans le monde entier d'ailleurs, le vendredi 8 mars très tôt dans la matinée par un communiqué du studio Bird, le studio que Akira Toriyama-sensei avait fondé lui-même. Donc cette nouvelle a pris de court tout le monde, vraiment c'était inédit. Cet artiste vivait reclus depuis plusieurs années et donnait très très peu signe de vie. On le voyait très peu, il sortait pas beaucoup et il publiait de moins en moins. Mais sa notoriété faisait que il faisait l'unanimité auprès du public bédéphile et que chaque nouveauté qu'il pouvait annoncer, chaque participation à des projets était d'autant plus des petits bonbons qu'on pouvait savourer au quotidien. La mort d'Akira Toriyama laisse un grand vide, ça a fait tout le monde une stupéfaction complètement dingue. Les hommages depuis vendredi 8 mars n'arrêtent pas de pleuvoir, qu'ils soient de simples anonymes comme Alexandre Bois, de youtubeurs plus connus, ou encore d'hommes politiques comme la ministre des Affaires étrangères chinoise ou notre Premier ministre Monsieur Attal, qui fait beaucoup de références à Dragon Ball dans le tweet hommage. Donc on a décidé avec Alexandre, le show must go on en fait, comme on dit si bien dans le milieu artistique. Je pense que, comme le dit Eric Legrand dans son hommage, on va pas faire comme Vegeta, on va pas pleurer non plus énormément et on va aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut aussi rendre hommage, ça c'est important. Akira Toriyama est un monstre sacré, pour reprendre les paroles d'un autre homme politique, un monstre sacré de la bande dessinée, vraiment. Il a marqué de son style, de son audace, de sa création scénaristique, le monde de la bande dessinée dans les années 90, avant aussi, et c'est l'autre phénomène qu'on associe à Akira Toriyama, il a contribué à rendre le manga accessible à tout le monde, enfin tout le monde à l'échelle géographique bien sûr, c'est Dragon Ball qui est devenu le phénomène, qui a exporté le manga, qui a fait en sorte que Jacques Blénat s'y intéresse et publie du manga de manière rigoureuse en France avec les trois locomotives qui étaient Dragon Ball, Sailor Moon et Ranma 1/2 de mémoire dans les années 90. Donc Dragon Ball c'est la tête de pont, Dragon Ball c'est notre enfance, Dragon Ball c'est notre adolescence, Dragon Ball c'est également l'enfance de nos enfants aussi parce que ce phénomène perdure dans le temps. La créature a échappé à son créateur pour devenir l'œuvre médiamix que l'on connaît.
Et Akira Toriyama a commencé par
pas du tout par le manga d'ailleurs. Akira Toriyama au départ, il était graphiste, il travaillait en agence de publicité, mais ça marchait moyennement. C'était pas forcément le truc qui le branchait, ce qui fait qu'il va démissionner et vivre chez ses parents. Sa maman en a un petit peu marre d'avoir le fiston à la maison et le pousse à se secouer un petit peu les puces afin de trouver du travail. Il va donc se lancer dans la carrière de mangaka, mais pas vraiment convaincu au départ. Il va envoyer pas mal de planches à différents éditeurs, dont la Shueisha, qui maîtrise le grand magazine de prépublication Shonen Weekly Jump. En un an, il a envoyé près de 500 planches qui seront toutes refusées. Ouais, vous avez bien entendu, donc Akira Toriyama a eu des débuts très difficiles, mais il a été persévérant, et gardez bien ça en tête, parce que la persévérance, c'est quelque chose qui est fondamental dans le travail d'Akira Toriyama, c'est une valeur qu'il a su transmettre à l'ensemble de ses personnages. En 1978, Akira Toriyama arrive enfin à se faire publier par la Shueisha via le magazine Shonen Jump qu'on a évoqué. Il se lance alors dans la création d'une série qui a marqué le gag manga Dr. Slump, une série complètement dingue que le public français a pu découvrir dans sa version animée dans l'émission sur la 5 Youpi l'école est finie. Ça passait tôt le matin, je me rappelle, moi je regardais ça avant de partir à l'école. Un humour qui vraiment le gaguesque japonais dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages loufoques, des références à des films, de la parodie, du super déformé, également le fait de ratisser un personnage en le caricaturant à mort pour le rendre encore plus ridicule qu'il n'est. il n'y a pas vraiment de logique au départ dans Doctor Slump. Il n'y a pas vraiment d'histoire de fond. Elle va venir progressivement, hein, une fois qu'on s'intéresse au personnage, la création du robot Harley qui est complètement démentiel. Donc on a une petite relecture de Frankenstein un peu délirante et absurde. Il y a vraiment toute la quintessence de l'humour en Nippon, en fait, est dans cette série, et cette série va vraiment cartonner. Au mieux de sa forme, la série Doctor Slump, lorsqu'elle est pré-publiée dans le magazine Shonen Jump, c'est 6 millions d'exemplaires par semaine qui sont vendus grâce à cette série. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut représenter dans le million d'éditions, un magazine qui, toutes les semaines, se tire à 6 millions d'exemplaires. C'est un truc colossal, c'est complètement inédit. Alors, ouais, vous savez, chers amis, que la prépublication en France ne marche pas du tout. Mais au Japon, c'est quelque chose qui est bien rodé, qui a pris la suite des librairies de prêt dans l'histoire des mangas. Mais là, ici, c'est vraiment un phénomène. Ce qui fait que bah, l'éditeur se frotte les mains. Chouette, on a une clause d'or. Ça va être gigantesque. Et Toriyama, lui, le succès va pas lui tourner la tête, mais va vraiment le fatiguer. Vous savez que les cadences de travail des mangakas sont carrément hallucinantes, avec très peu de repos, on fait dodo devant les planches, on mange devant sa table de travail, ça c'est carrément fou, mais les assistants sont à flux tendu aussi. Et Toriyama tient bon, mais il commence un petit peu à montrer des signes de fatigue. De ce fait, il demande à son éditeur de pouvoir stopper la série, au moment pile où la série cartonne et est déclinée en série d'animation au Japon. Le résultat des courses, l'éditeur a fait non, enfin, à la rigueur. Pourquoi pas, si jamais tu nous proposes une série autre, qui serait également un gros succès. Ce qui va amener Toriyama à tenter l'échappatoire, manque de bol, ça va accentuer la pression sur lui, vu qu'il doit continuer les chapitres de Slump. Alors imaginez trouver des gags non récurrents, est toujours aussi puissant de semaine en semaine, donc en termes de création artistique, c'est quand même fou, c'est-à-dire qu'en gros, il a deux jours dans la semaine pour qu'il réfléchisse à l'histoire, deux autres jours pour dessiner, et le dernier pour l'ancrage, et si possible, le dimanche pour essayer de se reposer aussi un petit peu, donc c'est et aussi livré à temps, dans la deadline, à son tempo, le travail. Et en parler de ça, du coup, bah, il faisait des one-shots, donc des chapitres uniques, prépubliés dans Jump ou dans d'autres magazines, en espérant que ce chapitre-là trouve son public pour qu'il puisse arrêter Slump et enfin trouver un rythme plus moins stressant, en tout cas pour lui et pour sa santé. Le succès arrivera assez tard avec un one-shot qui s'appelle Dragon Boy, dans lequel on retrouve tout ce qui fera le sel de Dragon Ball, en tout cas dans les premiers arcs narratifs. Il faut que vous sachiez également que l'éditeur va tenir sa promesse, mais va un petit peu filouter. Donc la fin Dr. Slump arrive, Toriyama travaille sur ce que sera Dragon Ball en parallèle, en commençant les ébauches de ces personnages, et il y a 4 versions des personnages avant d'arriver à ce qu'on connaît. Manque de bol pour lui, la promesse va être un petit peu dévoyée par l'éditeur, vu que plutôt que de se reposer aussi longtemps qu'il aurait apprécié, Toriyama ne bénéficiera que de 2 semaines de vacances entre les deux séries. Dragon Ball arrive et a du mal à trouver son public au Japon. Les gens trouvent ça rigolo, il s'agit d'une œuvre parodique au départ. On est sur la parodie d'un livre chinois du 16e siècle qui s'appelle Le Voyage en Occident. En tout cas, c'est l'un des titres sous lequel on peut le connaître. Si ça vous intéresse, il y a eu beaucoup de podcasts depuis la mort de Toriyama qui ont expliqué du coup, l'origine de Dragon Ball. Vous pouvez les retrouver facilement sur les réseaux sociaux ou sur les grandes ondes de Radio France, parce qu'on ne l'a pas dit également en introduction, mais les gros médias mainstream se sont emparés. C'est à ça qu'on voit aussi la puissance de Dragon Ball et de Toriyama, c'est-à-dire que maintenant le manga c'est lettre de noblesse. On a vraiment eu une information complète et des dossiers complets faits avec beaucoup de sérieux. Bon, Alexandre a mentionné le fait aussi qu'il y a eu des chaînes d'information continue qui ont fait des dossiers avec beaucoup moins de sérieux. Hein, on en a discuté avant l'émission, mais il y a des, si on prend France Culture, pour les nommer, où ils ont fait des séries de podcasts qui étaient vraiment, en termes de précision, c'est magnifique. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, hein, on est libre, vous pouvez nous embaucher, il n'y a aucun problème. Là, il y a le CV, on est prêt. Par contre, on n'arrivera pas à faire 500 planches par semaine, mais on peut arriver à faire quelque chose de bien quand même. Alors revenons à nos moutons, avant que je ne perde définitivement Alexandre qui essaie de réprimer la fou rire pour pas que ce soit enregistré dans le micro. Dragon Ball donc a du mal à trouver son public, mais Toriyama s'accroche, hein, il est persévérant, il continue sa parodie des personnages du Voyage vers l'Occident. Donc dans ce livre, le personnage principal c'est Sengoku, donc qui est vraiment un petit singe armé du Nienbo, donc le bâton magique. Il reprend ça, mais avec, en gros, c'est une espèce de mix entre le gag manga qu'il connaissait et ce bouquin. Et du coup, dans l'esprit de Toriyama, ce livre va l'inspirer et ce sera une série courte. Il a besoin d'une petite série courte, histoire de souffler après Dr. Slump. Arrive la fin du premier arc narratif, où, après avoir rencontré l'un des personnages que je préfère dans l'univers, Kame Sennin, Tortue Géniale en français, hein, qui est un personnage qui existe dans la culture chinoise. On a vraiment un ermite comme ça qui ne peut plus monter sur son nuage magique. Donc Toriyama le reprend, mais avec beaucoup d'humour grivois, parce que quand on lit Dragon Ball, on sait pourquoi Tortugia ne peut plus monter son nuage magique, c'est à cause de sa grande perversité. Le personnage, du coup, va évoluer au contact de Kame Sennin, on découvre après par suite Krillin, il y a les phases d'entraînement qui sont très rigolotes, donc là, on a toujours l'idée de mélanger un petit peu le gag manga avec l'univers des films d'arts martiaux dont Akira Toriyama était un très très grand fan. Vous avez peut-être pu voir ça, il y a des photos qui tournent en ce moment sur avec Jackie Chan et Akira Toriyama qui sont ensemble, ils se connaissaient vraiment. Toriyama est un grand fan des films de Chan. Beaucoup d'auteurs utilisent la musique lorsqu'ils sont sur la finition de leur planche, sur l'ancrage. Et Toriyama, lui, c'était pas du tout le cas. Lui, il mettait des films. À force, il les connaissait vraiment par cœur. Et le problème de Toriyama, c'est que parfois, comme nous tous, quand on met un film en fond sonore, et par un moment donné, on est scotché devant l'écran, on n'est plus trop devant ce qu'on fait. Et lui, c'était le cas. Et il connaissait par cœur les films de Jackie Chan. Il a même repris certaines scènes, certains personnages, certains noms également dans ses titres. Donc ce mix entre le livre et la filmographie de l'artiste martial fait que Dragon Ball arrive vers le premier Tenchi Budokai, et c'est là que ça devient un manga de baston. On est en 84, et le manga de baston en 1984, c'était quoi, Alexandre ?
Ken le survivant !
Ouais, Hokuto no Ken du duo Buronson-Hara, qui est vraiment le hit du Shonen Jump à l'époque, hein, qui est vraiment masculiniste à souhait, qui lui aussi, alors il n'est pas vraiment dans la parodie, mais il fait énormément de clin d'œil au cinéma hollywoodien. On a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires, Mr. T, Hulk Hogan, on a aussi Schwarzenegger qui apparaît, on a un Luke Stallone également de Ken dans un arc narratif.
Et c'est très aussi Mad Max.
Mad Max, hein, franchement, c'est un mélange entre Bruce Lee et Mad Max. Hein, les auteurs s'en sont jamais cachés, et c'était vraiment le gros hit hein, de Jump dans les années 80. C'est vraiment le truc qui parlait au à la cible du lectorat qui était visée par le magazine. Et du coup, quand le tonto de Toriyama lui dit « Ouais, bah, faudrait faire un manga bagarre », mec, non, il y a déjà ça, c'est déjà colossal, donc comment vais-je faire ? Et c'est là que Toriyama va tirer son épingle du jeu. Bah, c'est trouver le savant dosage entre le manga combat et le manga rigolo. Et si vous relisez Dragon Ball, vous verrez que à partir du premier Tenchi Budokai, le manga commence à quitter un petit peu le gag manga. On est un peu plus sur quelque chose de sérieux, avec un fil rouge, où le fantastique intervient encore, avec Piccolo Daimo qui arrive. Mais on est moins dans le côté rigolo, grivois, comme sur les premiers chapitres.
Plus l'œuvre évolue, il y a moins d'habitants qui sont des animaux. Parce que souvent, au tout début, on peut avoir des personnages ours, tigres, qui côtoient des êtres humains. Et qu'au fur et à mesure que l'œuvre évolue, on n'a plus du tout ce côté. On reste sur quelque chose d'assez fantastique et pas du tout designé comme Ken le survivant pour refaire le. Qui est quand même plus réaliste.
Oui, tout à fait.
Sauf dans les explosions des corps. Il n'y a plus ce personnage. Ces personnages, je me souviens des fois d'une sorte de guerrier. On ne savait pas trop à quelle époque on était dans Dragon Ball au début.
Oui, ça, on sait pas si on est vraiment sur Terre, sur quelque chose de réaliste. On a en fait une humanité qui est divisée en trois, les humains classiques, comme Bulma. Vous avez les humains sans nez, comme Krillin, d'accord, mais qui ont une particularité physique. Et puis vous avez les êtres anthropomorphes, hein, donc ces êtres mi-hommes, mi-animaux qui sont là, qui sont bipèdes, qui parlent comme vous et moi. Et ça allait très bien. C'est vrai que c'est un peu dans l'univers rigolo que Toriyama avait mis en scène. Et comme tu le fais remarquer, Alexandre, bah, au fur et à mesure, ils disparaissent pour laisser place à des profils plutôt humanoïdes et à un scénario qui devient un peu plus dark aussi. C'est vraiment sur du combat dur. Enfin, si vous rappelez le combat entre le premier Piccolo et Goku, on a quand même un gamin qui est grièvement blessé, mais qui va arriver à triompher parce que l'autre a un peu pas pensé qu'il restait un bras à son Goku et qu'il va s'en servir. Et pareil avec Piccolo, celui qu'on connaît, Piccolo Junior qui lui. Va tout faire aussi. Et puis ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est ce qui fait le succès de Toriyama en plus de l'évolution de son histoire, parce que c'est vraiment là avec le premier Tenchi Budokai que Dragon Ball décolle au Japon. Il y a une évolution graphique qui va avec. Une évolution graphique, c'est-à-dire si vous prenez les premiers chapitres de Dragon Ball, bah, Goku il est tout en rondeur, il est tout mignon, il est plus rondoudou, d'accord, c'est rigolo. Puis même l'humour grivois, c'est suggéré, enfin on va bien, enfin parfois plus que suggéré, mais ça reste soft quand même parce que c'était un magazine pour enfants, mais c'était rondouillé. C'est ce qui se faisait à l'époque dans le manga, c'était rondouillé. Et là où Toriyama a réussi à évoluer dans son style, c'est apporter du dynamisme et du mouvement. La sensation de vitesse qu'il apporte dans ses planches, en jouant sur les trames, en jouant sur les traits de fond, en jouant également sur les yeux. Il y a un gros travail sur les yeux. Quand vous regardez les yeux des personnages, ils sont tous en rond, des espèces de parenthèses. Quand Goku devient un peu plus mature, un peu plus adulte, c'est là que les yeux deviennent un peu plus rectangulaires. Le trait est... on a vraiment un trait très sec au niveau du regard. Avant que ça passe au Super Saiyan, on est vraiment sur un regard qui va s'affirmer pour montrer la dureté des personnages. L'autre évolution graphique aussi de Toriyama, c'est la proportion des corps. Vous regardez Goku enfant, voilà, il a des petits bras tout potelés, des petits jambes tout potelés, il arrive quand même à faire un Kamehameha, c'est rigolo. Mais quand il va arriver au premier Tenchi Budokai, Toriyama il est gêné parce qu'il dit « Ah merde, je peux pas faire des belles scènes de combat parce que les rondoudous ça passe pas en fait, ça fait pas des jolies poses. » Et il va s'inspirer du coup des films de Chan, de tous les films d'arts martiaux qu'il connaît, et il va avoir l'idée géniale de faire grandir son personnage. Goku devient un jeune adolescent mais très grand parce qu'il est passé dans la salle de l'esprit évident. Donc il est jeune adulte en fait. Même s'il est encore jeune dans sa tête, il est jeune adulte. Ce qui fait que là, pour les proportions dans le combat, c'est un peu ce qu'on avait avec le personnage de Yamcha ou de Tenshinhan, ou Kiyu qui est déjà beaucoup plus grand, donc il pouvait prendre des poses martiales qui ressemblaient vraiment à des poses martiales. Goku ne pouvait pas vraiment faire avec Krillin. Du coup, en les faisant grandir, là on a des combats qui deviennent de plus en plus stylisés. Et c'est la grande force de Dragon Ball, c'est la beauté des combats. Parce qu'on est à la fois sur des poses martiales qui existent vraiment, et après sur les choses fantaisistes qu'il a amenées au fur et à mesure, en faisant évoluer les personnages. C'est ça qui était intéressant dans le travail aussi de Akira Toriyama dans Dragon Ball, c'est l'évolution des personnages qu'il a fait. Et cette évolution, elle n'a pas forcément plu à tout le monde, en particulier, je vais faire référence au dernier arc narratif de Dragon Ball, l'arc de Buu, qui est celui que beaucoup de gens de notre génération connaissent, parce que quand ça cartonnait dans le Club Dorothée, c'est surtout l'arc narratif des cyborgs et de Cell qui ont cartonné. Du coup, tout le monde après s'est jeté sur Majin Buu, avec la super transformation en Super Saiyan 3, qui est l'une des préférées des fans de Dragon Ball, qui est assez stylisée, graphiquement parlant. L'arc de Buu, en fait, lui, il revient sur le côté gaguesque du début de Dragon Ball. On a des petites blagues, des petites références. On est dans la salle de l'esprit et du temps. Il y a Buu qui s'ennuie quand Gotenks fait ses conneries et il est en train de siroter une glace en lisant le Shonen Jump. Donc on a plein de petites gags comme ça qui arrivent dans un Dragon Ball qui était devenu plus sérieux, et ce qui fait que certains fans avaient été un peu déçus, alors qu'on retrouvait un peu l'esprit Toriyama du début. Sans rien décevant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de boucle bouclée, c'est-à-dire que voilà, il revient, il voulait donner une vraie fin intéressante avec des personnages qu'il jugeait intéressants aussi. Et puis voilà, il était fatigué aussi, hein, quand Dragon Ball s'arrête en 1995, l'éditeur a vraiment tiré sur tout ce qu'il pouvait tirer au niveau de la corde de son auteur, hein, c'est-à-dire que voilà. Alors il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent sur le travail d'Akira Toriyama, c'était très dur pour trouver des choses établies, et une notoriété qu'Akira Toriyama voulait déjà arrêter Dragon Ball, donc un récit court au départ, ça a du succès, il continue, il le fait grandir, le marier avec Chichi, donc hop, on continue encore, parce que là, et il voulait arrêter à Frieza. Donc à Frieza, normalement, c'était censé s'arrêter, et le carton que ça a été avec la grosse évolution de son personnage, c'est un peu Sangoku perd complètement son côté candide, il devient un adulte mature, donc il meurt une première fois, il a le côté persévérance et entraînement, dépassement de soi qui fait qu'il va revenir avec une nouvelle technique, il assiste à son fils qui se fait tabasser dans toutes ses largeurs par un ennemi surpuissant, son meilleur ami qui décède devant lui, et là on a le truc qui est devenu une référence ultime, quoi, la transformation en Super Saiyan, où là on a une histoire qui devient plus profonde, des protagonistes qui sont dingues, et la transformation. Dragon Ball bascule dans l'âge de la transformation, chose qui n'arrivait pas avant, c'est-à-dire avant on était sur les dépassements de soi, nouvelles techniques, sauver ses amis, arriver à temps, et là on passe à je vais te dégager de puissance, je vais te mettre une claque, tu vas faire trois fois le tour de ton style direction Pékin. On passe sur autre chose, donc il se renouvelle avec la pression des éditeurs, la pression des lecteurs aussi. Mais il voulait quand même arrêter. Après le succès aidant, on a eu tout l'arc narratif des cyborgs, Cell, Majin Buu, un arrêt en 1995, et il veut souffler. Et à partir de 1995, c'est là qu'il commence à disparaître des radars. Akira Toriyama est quelqu'un de très pudique. C'est quelqu'un... anecdote, hein, vous savez que peut-être que pour le 40e festival de la bande dessinée Angoulême, il a eu un prix d'honneur, hein, en 2013. Il n'est pas venu le chercher, c'est l'auteur qui est venu. Quand il a été fait chevalier des arts et des lettres en 2019, par le ministre de la Culture en France, il n'est pas venu non plus. Il s'est déplacé rarement, sur le tournage Dragon Ball Evolution, film dont on évitera de parler parce que c'est un manque de respect total envers l'univers de Toriyama et envers le travail d'Akira Toriyama qui était venu aussi pour aider le scénariste. Donc c'est vrai, c'est un rôle à envoyer se faire voir parce que c'était un japonais. Et même, d'ailleurs, l'acteur principal de ce film qui remerciait Toriyama et qui s'excuse encore de l'immense bouse qui est ce film, qui ne doit même pas s'appeler Dragon Ball. Quoi. Les mecs qui dansent sur Macarena pour faire une pauvre vague déferlante, enfin ça ressemble à rien. Tout est trahi dans ce film, il est extrêmement mauvais. Même là, il y a une version, une sorte vietnamienne qui existe, mais qui est très très belle, qui est même encore plus proche de l'univers Dragon Ball, qui est dur à trouver, mais qui est vraiment sympa à regarder. Celui-ci, franchement, à la limite pour torturer quelqu'un peut-être, mais là c'est, si un jour vous voulez faire du mal à un fan de Dragon Ball, vous l'attachez avec les yeux écartés devant ce film, et là c'est bon, il avoue tout et n'importe quoi, hein. Donc ce film est vraiment extrêmement négatif. Et c'est ce que je disais à Alexandre quand on préparait l'émission, c'est pour moi Toriyama, Slam d'abord, Dragon Ball par la suite, et son travail sur d'autres supports, il y a deux choses intéressantes à garder de son travail. La première, c'est que c'est vraiment du média mix, c'est-à-dire c'est la première œuvre qui va être transposée sur plusieurs supports différents en même temps. On a la version BD. Alors, si on prend les japonais, d'abord la version BD, la version animée, déclinant tout de suite en jeu sur la Famicom, la Super Famicom, Shin Sega, sur les bandes d'arcade, on a des tas de jeux, les jeux de cartes, les produits dérivés, et donc Dragon Ball c'est quand même gros merchandising, hein. C'est, même quand on se déplace sur les conventions avec Alex, il n'est pas rare comme sur les boutiques.
Il y a tout. De la pop maintenant, je veux dire, on a quand même des Dragon Ball, alors, soit en petit ou en grand, ça existe en porte-clés, c'est décliné en je sais pas combien de figurines, Bandai en a sorti, mais. Et ça sort toujours, c'est ça qui est marrant, même si ça s'appelle Super, Z ou Normal, de toute façon c'est du Dragon Ball, les personnages, on peut presque tous les avoir en format normal, grand, c'est impressionnant, tous les cartables, les trousses, les gommes, tout ce que pense qu'on peut s'habiller Dragon Ball.
En Espagne j'ai mis des préservatifs Dragon Ball.
Ah, c'est pas étonnant, ouais. Je veux dire entre les t-shirts, les slips, tout ce qu'on veut, et même... C'est un des rares animés que j'ai pu voir où il y avait, avec Garde la Cambriole, qui a tout le temps des animés, tous les ans qui sortent, je veux dire, des OAV ou des films. C'est vraiment, vous avez plus d'une vingtaine de supports films ou OAV, en plus de la série qui se met en parallèle, qui réinvente, où on se dit, bah tiens, on rajoute un personnage en plus, et qui peut exister après, soit en carte, en machin... Je veux dire, vous pouvez mettre une pièce totalement plus du Dragon Ball, ça ne m'étonne pas.
Ah ouais, il y a de quoi la remplir la pièce aussi.
Et c'est un des rares mangas en France qui est réédité tous les ans. Je veux dire, il y a toujours un truc qui sort, ou tous les deux ans. Que ça soit en presse, parce que là c'est sorti en presse, on en avait parlé dans la première émission. On a aussi, Glénat va ressortir Dragon Ball en couleur, totalement en couleur. Ça devrait sortir vers avril, je pense. On a vu ça à Angoulême lors de la conférence de presse de Glénat. C'est vraiment un manga qui n'arrête jamais d'être édité. Vous pourrez, si vous voulez vous lancer dans Dragon Ball normal, parce que on parle de Dragon Ball depuis tout à l'heure, parce que dans le manga, Dragon Ball, c'est Dragon Ball. On cherche pas de Z. Le Z, c'est juste pour l'animé, pour la deuxième saison. Je crois que le Z veut dire 12, si je dis pas ces bêtises. Et donc, le truc, c'est que bah, Dragon Ball, il y a plus d'une quarantaine de tomes, 42 pour être précis. Bon voilà, donc déjà ces 42 tomes, vous pouvez les avoir soit d'occasion ou neuf, alors autant les acheter neuf parce que c'est toujours édité, et après vous avez Dragon Ball Super, donc ça veut dire c'est quand même un truc de fou, et en plus il y a le GT qu'on a à peine parlé.
C'est le GT qui était arrivé en France en animation, qui n'existe pas du tout en version papier, qui était là l'œuvre du studio d'animation qui a voulu continuer l'univers. Des personnages qui étaient complètement dévoyés, enfin l'esprit de Toriyama était déjà dévoyé là, notamment le personnage de Trunks, qui est un personnage fort, comme on l'a vu dans l'arc narratif des cyborgs, qui là devient complètement ridicule en gosse de riche, qui s'est. Il y a un passage où on est quand il se fait raconter par Hyper, il fait ah oui, si seulement je pouvais me transformer en quelque chose de balèze et sauver cette vie, ah oui, puis il se transforme en super guerrier, il fait bon, laisse tomber. Donc c'est, voilà, c'est.
Après, je pense qu'ils ont voulu reprendre l'essence de base de la recherche, puis, où c'était insouciant. Avec le côté, bah oui, bah si, ah, tiens, ils sont transformés, ils ont de la puissance, c'est la suite, on est obligé de mettre les transformations, mais on laisse de côté le côté technique pour dire, oui. Bah on fait un peu les cons pour poum, et puis.
Ouais. C'est un reproche d'ailleurs que font parfois les fans hardcore de Toriyama et notamment de Dragon Ball sur ce qui est Dragon Ball Super en fait, qui reprend, qui est très fan service, qui est. Ça fait toujours plaisir de retrouver des personnages, mais. Le côté transformation pour transformation pour transformation, c'est pas du tout l'esprit de Toriyama dans Dragon Ball. Enfin, c'était vraiment la persévérance, l'amitié, enfin, il y a des valeurs humanistes très très fortes dans Dragon Ball. Hein. En plus du côté rigolo gag manga, il y a vraiment des grosses valeurs dans Dragon Ball. Et le côté, ce qui plaît aux gamins, ce qui nous aurait plu quand on était gamins aussi, hein, faut pas qu'on le nie plus Alexandre, hein, le côté de voir le mec super badass qui arrive à se transcender et à développer une nouvelle forme de puissance. Hein, c'est-à-dire que là, si vous suivez Dragon Ball Super, on est arrivé à Goku qui a un pouvoir divin. C'est Vegeta pardon, qui a le pouvoir divin, Goku qui a l'ultra instinct, donc ouais. C'est des stades de transformation mais vraiment ultimes, c'est-à-dire que après ça fait rire parfois les spécialistes dits de la vraie bande dessinée qui disent ouais bah en fait ils changent juste de couleur de cheveux, Ouais, bon, c'est un peu limite, il y a quand même une histoire derrière, mais c'est... Sachant qu'il y a une nouvelle série d'animation qui est annoncée au Japon, c'est Dragon Ball Daima, qui va prendre un peu la suite de DB Super, en revenant sur le côté rigolo de Dragon Ball. On a vu la bande-annonce avec Alexandre, on voit tous les personnages qui ratent ici, qui retrouvent leur enfance, on voit Goku se battre avec son Nienbo, donc le bâton magique en français, ça... Je pense que ça peut être une bonne surprise, croisons les doigts, hein, après tout, hein, c'est... Ça peut être sympa, Dragon Ball Super, ça se regarde, franchement, nous on a regardé les premières saisons, on a trouvé ça sympathique. Personnellement, moi j'ai laissé tomber la BD parce que je crois qu'il n'y a plus trop l'esprit, même si Taiyo Taro, l'auteur qui a repris, qui dessine Dragon Ball Super en fait, est un gros fan de Toriyama. Toriyama ne dessinait plus, donc il a un trait qui est vraiment beau, enfin, on dirait vraiment que c'est l'artiste de départ qui dessine, hein. C'est un très très bon copycat, il n'y a aucun problème là-dessus, graphiquement, la BD elle est géniale. Mais c'est le côté scénar en fait qu'on s'y retrouvait plus trop, parce que l'esprit DB il était plus trop vraiment dedans en fait pour nous. C'est notre avis. Mais ça prouve le côté média mix encore et le côté transgénérationnel du travail de Toriyama. C'est-à-dire que nous on a grandi avec Toriyama, on en discutait à la coordination, enfin c'était l'événement, l'épisode de Dragon Ball. C'était le truc qu'il fallait pas rater le mercredi pour en discuter le jeudi. T'étais vraiment le mec le plus exclu socialement parlant si t'avais pas pu le voir. Enfin, nos petits frères se sont emparés, enfin la génération de nos petits frères, petites sœurs se sont emparés, parce que c'est à force Toriyama aussi, il s'adresse aux petits garçons, mais également aux petites filles dans son travail. Si vous prenez la rencontre avec Chichi, entre Goku et Chichi dans Dragon Ball, c'est là où on a une inversion des codes narratifs au niveau de la rencontre amoureuse. C'est-à-dire c'est pas le mâle dominant qui va séduire la jeune donzelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est Goku est tellement candide, tellement naïf, qu'il a aucune référence sociale vu qu'il a vécu comme un ermite. Et quand elle lui propose de l'épouser, lui pense que ça se bouffe, il fait quoi, d'accord. Et des années plus tard, du coup, bah, le fait qu'elle participe au tournoi pour lui rappeler la promesse, c'est là que ça va surprendre tout le monde et que finalement, bah, gentil comme il est, il va tenir sa promesse. Et là, c'est un côté déconnant rigolo, mais on est quand même sur quelque chose de très très fort et d'audacieux de la part de l'auteur d'inverser ses codes narratifs. Alors que, et vous le savez, je pense, dans le magazine de prépublication, il y a quand même une trame narrative qui est imposée à tous les auteurs et qu'ils doivent suivre. C'est pour ça que souvent les shonen ont tendance à se ressembler, c'est-à-dire qu'on a vraiment une base narrative qui est imposée au créateur. Et Toriyama, de temps en temps, bah, s'en affranchit et s'amuse. Et c'est ça qui faisait aussi la force Dragon Ball. C'est-à-dire qu'il y a quand même des personnages féminins qui sont à Bulma. Par exemple, Lunch. Bulma, c'est quand même au départ, quand on lit le premier chapitre, on ne sait pas si c'est elle ou Goku qui est le personnage principal. On commence avec Goku, enfin ça s'ouvre avec Son Goku enfant, hein, qui, de mémoire, qui roule sur un gros rondin de bois avec une grosse scie. Mais après, le personnage qui va initier l'intrigue, initier l'histoire, et donc amener le lecteur à connaître ce que sont les Dragon Ball, c'est quand même Bulma. Lunch, également, qu'Alexandre évoquait, hein, qui est vraiment un personnage très rigolo, qui est un personnage secondaire fort avant qu'il ne disparaisse progressivement. Vous avez la maman de Bulma aussi dans la version animée, là, qui est très drôle, parce qu'elle est complètement ouf, elle part dans tous les sens, elle comprend que dalle, donc ça amène un effet comique qui est plutôt marrant. Par la suite, bah, vous avez Chichi adulte aussi, là, qui passe de la femme combattante, mais amoureuse, et qui passe à la mère de famille, dominatrice et qui impose des limites à Son Goku qui, malgré sa trentaine d'années, reste un grand enfant. Vous avez C-18 aussi, d'accord, qui est un peu l'archétype de la femme fatale avant de redécouvrir sa féminité. Donc on a, voilà, on n'est pas sur les clichés en fait de ce qu'est la femme dans le manga dans les années 80-90, un peu bimbo, un peu trop sexy. Enfin, on voyait dans le travail de Teresa Wa quand on l'avait présenté dans Cobra, où on imagine pas une femme pouvoir marcher comme ça, c'est impossible sans qu'elle se casse la figure ou qu'elle s'enfonce le string jusqu'à la gorge. Mais là, on est sur quelque chose où, voilà, ça reste un manga lisible par tout le monde. Donc, les femmes, et nous, on en connaît notre entourage, on a beaucoup de jeunes filles qui, de notre âge ou même plus jeunes qui connaissent Dragon Ball et qui adorent. D'ailleurs, la traductrice actuelle de Dragon Ball et Dragon Ball Super, c'est une grande fan de Dragon Ball, elle a découvert comme nous à la télévision, et le Dragon Ball lui a parlé. Donc, c'est ça aussi la grosse force du travail de Toriyama. Dr. Slump avait déjà ça. On s'adressait à tout le monde en fait, un public le plus large possible, jeune, vieux, moins jeune, parfois entre les deux, femmes, garçons, transgenres, qu'importe, bah il y a n'importe tout le monde en fait. Et ça c'est la grosse force de Toriyama, donc merci à vous Akira. Et bah chers amis, dis donc, alors on n'a pas fait le tour parce qu'on avait beaucoup plus de trucs à vous dire sur Akira Toriyama, bah on va être obligé de se quitter parce qu'on est déjà arrivé au terme de cette émission, je vais laisser le mot de la fin à mon grand Alexandre.
Très bonne soirée sur nos ondes, merci de nous avoir écoutés, merci pour ce topo Johan, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews d'Angoulême, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao,
au revoir.